Alors, c'est parti pour la première table ronde. Alors, Julien Pierre de Fair Play for Planet, Thierry Samu de la Fédération du Triathlon et puis Jérôme Baudou de Reworks Fair. Vous pouvez me rejoindre. Installez-vous. Bonjour.
Pardon.
Alors, oui, vas-y, je vais mettre sur le côté. Alors, normalement, les micros sont ouverts. S'il y a un petit temps d'attente, c'est normal. Eh bien, merci de votre participation. Donc, on a une première table ronde sur la question du sport et de l'engagement sous différentes formes, en fait. Et donc, nos invités vont nous expliquer quel est leur sujet. Alors, on accueille Julien Pierre. Donc, vous êtes directeur général de Fair Play for Planet, qui est un label d'événements et de clubs de sport sur les questions environnementales. Vous allez nous expliquer plus largement. Thierry Samu, à ma droite, vous représentez ici la Fédération du Triathlon. Et Jérôme Baudou, vous avez créé une marque qui s'appelle Reworks Fair, qui en fait utilise des matières upcyclées pour la création de vêtements. Je vais vous laisser chacun d'abord vous présenter plus avant votre initiative et puis nous dire un peu, quand on parle d'engagement, comment vous faites le lien entre... Alors je pense en plus, il me semble que vous êtes tous athlètes ou anciens athlètes. Donc comment vous êtes passés en fait? Ou est-ce que ça a été quelque chose d'assez naturel finalement, l'engagement dans le sport ou le sport comme engagement, la pratique comme engagement? Et qu'est-ce que vous mettez derrière cette question? Alors on peut commencer par vous, Julien Pierre, si vous voulez prendre un micro.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et ravi d'être présent. Alors, je vais peut-être pas répondre à toutes les questions tout de suite, mais tout d'abord parler de Fair Play for Planet. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, rugbyman, donc l'engagement, on le connaît. Engagé depuis longtemps dans la protection de l'environnement, j'ai créé une fondation pour la protection de la biodiversité il y a une dizaine d'années quand j'étais encore joueur. Et quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai voulu lier justement protection de l'environnement et sport. Et on s'est lancé, je vous passe les détails, on s'est lancé dans l'aventure de Fair Play for Planet il y a maintenant 2 ans, qui se veut être le premier label environnemental pour les clubs, les établissements sportifs et les événements sportifs. Et à travers ce label, on essaye d'aider ces acteurs à identifier ce qu'ils font déjà, à structurer et à le valoriser à travers un label. On l'a travaillé avec l'ADEME sur notre référentiel. Et de la base référentielle, y a un audit, un suivi et différents accompagnements avec l'attribution d'un label, avec 3 niveaux de labels différents. Donc on pourra peut-être rentrer dans les détails tout à l'heure, mais à travers toute cette démarche, on va regarder comment ces organismes fonctionnent. Donc on parle du transport, on parle de l'énergie, évidemment, c'est un gros sujet actuellement, l'utilisation d'eau, les terrains et produits phytosanitaires ou non, la réduction des déchets, et évidemment tout ce qui est économie circulaire et vêtements. Et en tant qu'ancien sportif de haut niveau, tout à l'heure j'ai lu quelques chiffres, si j'ai bien retenu Isabelle, hein, je crois que c'est 240 000 tonnes de vêtements qui sont collectés par an en France, et 40% la part du textile sportif sur le textile français, c'est ça? Et ouais, c'est ça, c'est les chiffres qui marquent. Et du coup, tout à l'heure, quand j'ai écouté tous ces chiffres, je me souvenais quand j'étais rugbyman professionnel, les kilos de vêtements qu'on avait tous les ans en don, en cadeau, pour représenter. Et est-ce qu'ils sont bien utiles? Je ne sais pas. J'ai toujours essayé d'en faire don, mais quand on fait 2 mètres et 115 kilos, je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'ai des copains qui disent « Bon, t'es gentil, mais moi, les trucs qui m'arrivent ici, ça va plus. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et la réduction de l'utilisation, la réutilisation de tous ces produits est importante.
Est-ce que c'est précisément en étant sportif, en pratiquant le sport de haut niveau, que vous avez eu cette prise de conscience, ou ça s'est construit au fil, je sais pas, des événements, de la sensibilisation à ces sujets, du paysage aussi qui évolue autour de ces questions?
Alors oui, en tant que sportif, j'ai pris conscience de l'importance du sport dans notre société, et on le voit aujourd'hui avec les différentes polémiques qu'il peut y avoir justement entre sport et engagement ou non-engagement contre le dérèglement climatique. J'ai pris conscience de la puissance du sport dans notre société, la puissance des sportifs à s'engager et à prendre la parole. Mais je suis issu aussi d'une famille très engagée dans la protection de la biodiversité. Et durant ma carrière, j'ai eu la chance de faire un voyage, oui, à Sumatra, qui m'a ouvert les yeux de quelque part l'état de la planète, et qui m'a dit je peux pas rester comme ça sans rien faire, et voilà pourquoi je me suis engagé. Et aussi parce que pour moi le sport est comme je l'ai dit primordial dans la société, avec vraiment pour moi deux lectures différentes, avec un sport professionnel qui a un vrai devoir d'exemplarité, devoir de prise de parole, et un sport amateur qui a un rôle pédagogique de sensibilisation, sans oublier que le sport représente que 1% des émissions de gaz à effet de serre et environ 1% des consommations énergétiques. Mais par contre, voilà, avec son devoir d'exemplarité et son rôle pédagogique, il y a un effet multiplicateur extraordinaire et d'accélération de cette transformation écologique. Plus parler de transition, d'ailleurs, transformation écologique. Donc c'est pour ça que je pense que le sport peut être un vrai vecteur et un vrai booster de tous ces sujets-là. Et on le voit aujourd'hui, on parle de mode, de vêtements, mais on pourrait faire des triathlons, de la mode, du transport, de tout. Juste avec le sport, quoi.
Oui, puis c'est vrai que ça paraît complètement cohérent avec les valeurs que veut promouvoir le sport aussi, d'émancipation des individus, de collectifs, etc. Alors, un mot peut-être aussi pour présenter ce label. Qui l'a fondé? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Est-ce que de plus en plus d'événements ou de clubs font la démarche pour avoir ce label, et donc ça devient un sujet très important?
Alors, c'est nous qui l'avons fondé, on a travaillé avec l'ADEME, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec, sur notre référentiel. On s'est lancé il y a 2 ans exactement. Et il y a 2 ans, le sujet commençait à naître, mais était encore minime. La prise de conscience est en train de s'accélérer véritablement avec les différents événements polémiques qui existent, c'est certain. Issu du monde professionnel rugby, on a la chance de travailler avec pas mal de clubs de rugby. On travaille avec des clubs comme l'Olympique Lyonnais. En terre stéphanoise, je ne sais pas trop si je peux le dire, mais on travaille avec des clubs comme l'Olympique Lyonnais, des clubs de Ligue 1, de Ligue 2. On travaille avec des clubs de hand, on travaille avec différentes ligues également. C'est un sujet aujourd'hui, et on le sent bien, les clubs, les ligues, les fédérations, les différents organisateurs d'événements, les marques aussi. C'est un sujet où les personnes avec qui on discute aujourd'hui se disent, mais quand est-ce qu'on va y aller, quoi? On veut voir ce qu'on va faire, il faut qu'on s'engage, il va falloir qu'on communique sur ce qu'on fait aussi également. Il y a de plus en plus d'acteurs et motivés par différentes raisons, hein, toujours pareil, évidemment il y a toujours ceux les plus motivés qui s'engagent tout de suite. Il y a les convaincus qui s'engagent aussi très vite, mais on voit bien que la pression sociale, sociétale devient omniprésente. Et heureusement, très bien, hein, je crois qu'on a besoin de cette transformation. Et de plus en plus d'acteurs se disent, on va s'engager. Et puis de toute façon, on a évoqué quelques lois qui sont en train de se mettre en place. Le législateur est en train aussi d'accélérer toutes ces nouvelles lois, décrets qui vont accélérer cette transformation.
Et on les évoquait un petit peu hier. Et donc, en deux mots, puis après, vous aurez l'occasion, bien sûr, de poser des questions. Les événements ou les clubs qui sont labellisés, enfin, en tout cas, s'engagent dans une démarche essentiellement donc de qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Donc, c'est la réduction des déchets. Il y a d'autres, quels sont les critères ?
Il y a 350 critères. On peut les regrouper
par famille.
Oui, non, mais évidemment, le transport, c'est primordial. Donc, le transport, quand on parle de transport, c'est le transport des joueurs, mais le transport des supporters. Un événement sportif, entre 80 et 90% du bilan carbone d'un événement sportif, c'est le transport. Donc il faut travailler sur le transport. Des sportifs, mais des supporters. C'est primordial. La réduction des déchets, évidemment. L'alimentation, la réduction du gaspillage, proposer plus de produits non carnés, le numérique, une meilleure empreinte numérique. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de critères.
Très bien. Bon, ben on aura peut-être l'occasion de les explorer. Je vais te donner la parole, Thierry. Donc, tu représentes la Fédération de triathlon et tu es aussi président de la Ligue Île-de-France de triathlon. Il y a une présentation, c'est ça?
Non, mais je vais déjà me présenter en attendant. Pardon, si je pianote, c'est pas que je m'intéresse pas, c'est que je prends des notes. Mais comme la modernité fait qu'il faut prendre des notes maintenant là-dessus, et si je prends mon calepin, je passe pour un vieux machin. Donc voilà. Thierry Samut, moi j'ai la chance d'être tombé dans le sport comme certains, tout petit. Après avoir fait beaucoup de pratiques d'arts martiaux, je suis tombé dans le triathlon, vraiment aux prémices du triathlon. Et j'ai eu la chance de participer à la création de la fédération et d'être athlète d'un certain niveau, d'être entraîneur des équipes de France. Et à ce titre, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs Jeux Olympiques, dont Tokyo, Rio, etc., etc. Et puis bien sûr, je suis très impliqué à la fédération pour les Jeux de Paris 2024. Et donc, voilà un parcours depuis de très très nombreuses années. Et forcément, quand on fait du sport, quand on croise beaucoup de gens, quand on croise beaucoup de jeunesse, parce que dans nos pratiques, on est toujours en train d'être des passeurs. Moi, je suis l'ancien monde. Et l'objectif, c'est que le nouveau monde que vous êtes soit à la relève. Et moi, je dois dire qu'au début, on n'avait pas la conscience qu'on a aujourd'hui, tu le disais tout à l'heure, la conscience se fait de plus en plus. Et au début, nous, on pratiquait et puis on ne se posait pas plus de questions que ça. Et au fur et à mesure, effectivement, parce qu'on a aussi des gamins, parce qu'on a des gamins qui vont aussi avoir des gamins, et qu'on se dit qu'on est en train d'esquinter la planète et que les réseaux sociaux, la communication, fait qu'on est de plus en plus en conscience de ce qui se passe. Et qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que je regarde le train passer ou est-ce que j'essaye très, très, très modestement? Parce qu'il faut aussi être dans cette approche extrêmement humble. On est des tout petits colibris et qu'on apporte chacun de sa petite goutte d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Mais qu'on voit bien, il y a eu la COP 27 ces jours-ci, on voit bien que quand tous les grands de ce monde se mettent autour de la table, il en sort, c'est pas la politique ou la polémique, mais qu'il n'en sort pas forcément grand-chose. Il y a quelques années, notre président de la République disait « la planète brûle et on tourne la tête », et bien la planète continue à brûler et on continue à tourner la tête. Donc voilà, je laisse le collègue se présenter, puis après on rentre dans le fond ou j'attaque dans le fond ? Alors, peut-être vous présenter un projet sans être trop long. Je te laisse présenter ou... Non, ça marche pas, ça serait dommage. Enfin, ça serait dommage, ça serait... Voilà, donc tout d'abord, vous présentez la Ligue Île-de-France, c'est plus de 11 000 licenciés permanents, c'est plus de 20 000 licenciés, utilisateurs ponctuels, donc plus de 30 000 personnes, donc un impact, avec une équipe pour faire tourner tout ça. D'abord, une équipe qui essaye de définir un certain nombre de valeurs, et parmi ces valeurs, on a quelque chose d'important pour nous, c'est le respect de l'environnement, c'est des valeurs comme l'inclusion, c'est la bienveillance, le respect des organisations, la solidarité, la proximité. Enfin, voilà, quelques valeurs fortes qui font que derrière, on a un projet politique pour porter cette dynamique. Ensuite, on a toute une équipe, évidemment, pour porter ce projet. Et c'est important, la question de l'équipe, parce que chaque équipe représente une somme d'individualités qui n'ont pas forcément toujours la même vision. Et voilà, et il faut réussir à embarquer, et c'est aussi un élément important. Et puis, notre objectif, c'est d'agir en direction d'un certain nombre de choses, donc entre autres du développement de nos pratiques, de la mixité, de la diversité, de la santé, du développement durable, de la cohésion sociale, de l'éducation et de la lutte contre toute forme de discrimination, d'incivilité et de violence. Voilà. Donc ça, c'est notre trame, ça, c'est notre axe. Et à partir de là, comment est-ce qu'on fait vivre toute une dynamique autour de cette communauté autour de 30 000 personnes On enchaîne. Et ce qui est important, c'est que quand vous avez un projet pour la fédération de triathlon, en tout cas pour la ligue de triathlon qui se base sur 4 ans, pourquoi 4 ans? Parce que 4 ans, c'est la période olympique. Donc on est élu jusqu'aux Jeux olympiques. Et puis après les Jeux olympiques, il y aura de nouvelles élections avec de nouvelles équipes. Mais ce qui est intéressant dans notre démarche, et ce qui fait peut-être une spécificité de notre approche aujourd'hui, c'est qu'on a, on a 4 axes. Ces 4 axes qui sont le cœur même de notre problématique, puisque c'est accompagner les différents acteurs, c'est-à-dire qu'une ligue comme la mienne, c'est 135 clubs, je vous l'ai dit, c'est à peu près 30 000 participants, c'est 8 comités départementaux, c'est plus de 70 organisations sur l'année, donc vous voyez, c'est du mouvement, donc il faut accompagner tout ça, c'est notre base. Ensuite, développer nos pratiques, puisque le triathlon, c'est pas que le triathlon, c'est aussi le duathlon, c'est aussi le running bike, c'est aussi un certain nombre de pratiques, c'est aussi les raids, parce que les raids font partie de la fédération de triathlon. Et puis ensuite, c'est faire vivre tout ça, c'est-à-dire que toutes nos organisations, c'est un comité de directeurs, c'est un conseil d'administration, c'est un bureau, c'est des commissions, enfin voilà, il faut faire vivre tout ce petit monde. Et puis on a, nous, Paris 2024, puisque je suis et à la Fédé et président de la Ligue Île-de-France, et il se trouve que les Jeux se font sur la Ligue Île-de-France, et que, en tant que président, je suis aussi en charge depuis quelques années du triathlon de Paris, etc. Donc, vous voyez, on est en première ligne. Et puis, en général, ce qu'il y a dans une organisation comme la nôtre, c'est qu'il y a une cinquième brique ou une sixième brique ou une septième brique qui s'appelle un peu le développement durable parce qu'il faut en mettre. Et nous, on a souhaité fonctionner différemment parce qu'on considère que le développement durable, ce n'est pas une brique parmi d'autres. On a considéré que le développement durable, c'était l'axe central et que c'était la colonne vertébrale. Et c'est pour ça que c'est positionné comme ça, parce que quoi qu'on fasse, partout, il y a un axe autour du développement durable qui doit être pris en compte. Alors effectivement, ça peut paraître important et lourd, mais ça participe des objectifs difficiles. Je ne vais pas rentrer dans les différents axes, donc on va aller très très vite pour ne pas prendre trop de temps. Isabelle, si tu veux bien faire défiler, et on va arriver à un axe qui est développement durable. Je te laisse suivre. Voilà, donc hop, voilà, on s'arrête là. Et donc, l'axe central pour nous, c'est le développement durable. Et le développement durable, vous le savez, ou pas, c'est en tout cas 3 axes de portage, que sont l'aspect social. Quand on parle de l'aspect social, c'est la relation à l'autre, c'est l'humain, c'est l'environnement dans lequel on se situe. C'est l'économique, parce qu'il ne se passe rien sans économie. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'argent pour faire tourner notre projet. Et que à travers cet aspect-là financier, il faut aussi le prendre en compte dans notre quotidien. Et puis, il y a l'aspect évidemment éminemment environnemental. Et donc, pour nous, c'est une vraie démarche volontariste. Personne ne nous impose quoi que ce soit. Personne ne nous dit qu'il faut absolument le faire. Enfin, ce n'est pas en tout cas dans nos règlements, dans nos obligations. Et donc, ça peut être qu'une démarche portée. Et cette démarche portée, pour nous, elle doit être transversale, parce qu'on doit embarquer avec nous l'ensemble des partenaires. Et moi, je dois embarquer en tant que président l'ensemble des 15 membres qui sont avec moi et l'ensemble de mes collègues qui parfois me disent « Mais Thierry, on est tous des bénévoles. » Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, j'ai un métier à côté. C'est-à-dire que moi, je suis bénévole. Tout ce que je fais pour le triathlon, pour la fédération, pour la ligue, etc., c'est, je le fais sur mon temps libre. Et Dieu sait, ça prend beaucoup de mon temps libre. Et heureusement que j'ai un job qui me permet d'avoir un peu de disponibilité et d'autonomie. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut embarquer en permanence. Si on peut passer à la suivante. Donc, parmi nos axes, nous, le premier axe, c'est bien évidemment l'humain. Parce que parler de développement durable, parler d'environnement et autres, c'est bien sympa, mais tout ça, c'est pour l'humain. Et que si on ne met pas l'humain au centre du dispositif, à un moment donné, ça pose un vrai problème de fond. Nous, c'est aussi arriver à mettre en place, puisqu'on est dans la dynamique de l'humain, nous, ce qu'on entend par l'humain, c'est l'encadrement pour tous, c'est-à-dire mettre en place des structures, des formations, y compris gratuites, pour que tout le monde puisse y accéder. Pour nous, l'humain, c'est la santé. C'est-à-dire que l'individu va bien quand il se porte bien. Et que le triathlon, ça peut faire peur et qu'on a développé tout un concept autour du tri-sport-santé. Et pourquoi sport-santé ? Parce que, par exemple, on avait des mamans ou des papas qui accompagnaient leurs gamins sur nos équipements, à la piscine ou sur la course à pied ou sur le vélo, et puis ils passaient une heure et demie à attendre leurs gamins. Et on s'est dit, c'est quand même idiot d'avoir un public captif et qui font rien. Et donc, voilà, on a développé tout un concept très simple, très ludique, autour du sport-santé, pour que et sans qu'on aille demain sur un triathlon, mais en tout cas, qu'on soit en mouvement. Et puis, on travaille aussi sur bien-être au travail, parce que c'est aussi important, et donc on travaille avec des organismes comme le MEDEF. Le MEDEF, c'est l'organisme des employeurs de France, avec le comité olympique, avec différentes structures pour pouvoir accompagner, par exemple, sur l'utilisation du vélo. Vous savez que de plus en plus, on utilise le vélo dans les entreprises, etc. Et ben nous, on vient avec des vélos, différents types de vélos, pour essayer de montrer aux salariés comment ils peuvent utiliser différents types de vélos selon leur morphologie, selon leur histoire, leur habitude, quel type de fringues mettre quand on doit venir au boulot et qu'il va pleuvoir, qu'il va faire froid, etc. etc. Voilà. Donc c'est notre façon à nous d'accompagner et d'essayer de mobiliser les gens autour du vélo. Bien sûr, véhiculer nos valeurs qu'on a évoquées tout à l'heure. Valoriser l'action de bénévolat. Parce que le bénévolat dans notre structure, c'est essentiel. Et j'espère que chacun d'entre vous est impliqué dans le monde associatif et vient donner un peu de son temps pour les autres. Parce que c'est aussi ça, la relation développement durable. C'est pouvoir donner de ce qu'on sait ou juste de sa présence pour les autres. Et c'est quelque chose d'important. Isabelle me plante, là. Je je connais pas par cœur mon truc. Et pour ça, nous, on a mis tout un système en place de solidarité. C'est-à-dire, quand on a des clubs qui nous font venir des bénévoles, on ne finance évidemment pas les bénévoles, parce que ça serait plus l'objet. Mais on valorise la présence d'individus auprès du club et ça permet à des clubs de récupérer de l'argent parce qu'ils arrivent à mobiliser leurs troupes sur nos organisations et du coup avec l'argent qu'ils récupèrent et ben ils peuvent faire des stages pour les gamins, ils peuvent acheter du matériel, etc. Voilà. Donc on essaye en permanence d'être dans une approche vertueuse et puis on participe aussi à des accompagnements autour des fondations par exemple on participe très activement à la fondation ARC, que vous connaissez, j'imagine, hein, la lutte contre le cancer, et plus particulièrement contre le cancer du sein. Et nous, il y a des épreuves qui sont en train de se développer autour du triathlon rose, enfin de triathlon des roses. Et donc, on organise un triathlon sur Paris, spécialement dédié aux femmes qui sont soit qui ont eu des soucis de santé, soit sur leur environnement. Avec des collectes et pour essayer de mobiliser donc avec des artistes et autres. Voilà, on essaie de faire un peu le buzz autour de ça et ça marche plutôt bien et c'est plutôt sympa. Et puis on participe aussi d'une autre démarche avec une autre fondation autour de l'UNICEF parce que moi je voulais absolument qu'on ait deux axes centraux de soutien. Un autour des questions de santé. On a choisi le cancer du sein, ça aurait pu être autre chose. Et puis le deuxième axe, je voulais absolument qu'on ait un axe fort autour des gamins. Et donc on travaille avec l'UNICEF dans ce cadre-là. Isabelle, si tu veux bien nous envoyer la slide suivante. Oui, j'ai fini dans 2 minutes. Sur l'aspect environnemental, là encore, nous, on est sur une pratique extérieure et en plein air. Et donc forcément, l'aspect environnemental est essentiel pour nous. Et tout à l'heure, tu l'indiquais, hein, notre problématique, c'est de réduire notre empreinte carbone à travers, effectivement, la notion de déplacement, en essayant de développer du covoiturage, en mettant en place des kits d'organisation pour l'ensemble de nos épreuves et de nos organisateurs, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les éléments, mais aussi de s'enrichir des bonnes pratiques qu'ils peuvent avoir. Par exemple, moi j'organise un triathlon sur la forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau est un site complètement protégé, etc. Notre objectif, c'est que quand on reparte, personne ne sache qu'on est passé. et pourtant on reçoit plus de 1000 triathlètes sur une journée, avec bien sûr du public, etc. etc. Et on repart, et le terrain doit être plus propre que quand on est on est arrivé. Ça, c'est un objectif essentiel. Dernière slide, Isabelle, si tu veux bien. Et puis sur l'aspect économique, eh ben c'est aussi travailler avec des partenaires qui portent nos valeurs. Par exemple, on a un partenariat sur un bike and run avec GoSport. Voilà, GoSport, pourquoi GoSport ? Parce qu'on porte les mêmes valeurs, parce qu'on travaille sur les mêmes questions. Quand on doit travailler avec des achats, eh ben on essaye de faire en sorte de participer à des achats qui sont plutôt vertueux. Par exemple, quand on fait des manifestations, la problématique, c'est est-ce qu'on offre un t-shirt ou pas ? Aux coureurs. Si on offre un t-shirt, est-ce qu'on offre un t-shirt qui n'est pas très cher parce qu'on a un budget à tenir, et donc on va faire notre t-shirt en Chine, on va le ramener ici, et puis du coup on n'est plus du tout aligné avec nos valeurs. Donc soit on va trouver un partenaire qui a des moyens de nous faire des produits français, en tout cas en proximité, qui ne sont pas très chers, ça rentre dans notre budget, on peut le faire. Soit c'est pas le cas, et peut-être qu'on va se dire on ne fait pas de t-shirt. Puis après, je vais prendre 2-3 exemples comme ça, juste pour être dans la réflexion. La notion de médaille. Moi, je suis très attaché au fait que chaque personne qui court une épreuve puisse avoir une médaille. Et là, on a un vrai débat au niveau de notre équipe, hein, parce que j'ai des enseignants, etc., qui nous disent, par exemple, mais la médaille, c'est pour celui qui gagne. Moi, je dis non, mais un gamin qui vient faire une course, il y a 300 gamins qui viennent faire une course, quand ils repartent avec leur médaille, waouh, ils ont les yeux, je parle aux sportifs, et on me dit, ouais, mais Thierry, la médaille, c'est pas vertueux parce que c'est pas développement durable. Et c'est vrai que c'est pas développement durable, une médaille en fer. Donc on dit, bon, on va faire des médailles en bois. Ouais, mais la médaille en bois, ça coûte 3 euros. Quand une inscription, le gamin, il paye 2 euros parce qu'on veut que ce soit tellement accessible qu'on fait le minimum du coût, et bien du coup, on perd de l'argent si on offre une médaille. Vous voyez, c'est ça aussi le développement durable, c'est ça aussi les engagements sur lesquels on peut se situer. Tu l'évoquais tout à l'heure, la question de l'alimentation. J'ai participé ces jours-ci à un équidème sur Paris, un ravitaillement eau, et puis à la fin de la course, pas d'eau. On dit, pas d'eau. Ben ouais, mais c'est un choix de dire, est-ce que chacun peut ramener sa gourde ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des tonnes d'eau à l'arrivée et qu'à un moment donné, qu'ils vont être gaspillés parce que forcément, pas forcément utilisés. Voilà, pardon, j'ai été un peu long, oui, mais je suis passionné et je laisse la parole.
Voilà, merci beaucoup. Non, mais c'est passionnant, ça mérite. C'est juste qu'on est limité par le temps et j'ai la lourde tâche en plus de vous le faire respecter. Mais en fait, ça montre aussi toutes les initiatives, la complexité, le rôle du sport. En fait, tout ça, c'est de vraies questions de société. Donc, on a tous ces axes qui sont vraiment important. On en discutait hier aussi sur la question des conditions sociales, de fabrication, des produits, c'est un vrai sujet. On aura l'occasion, encore une fois, je voudrais laisser un peu de temps pour l'échange, mais Jérôme Baudou, alors toi, tu es athlète, alors je me suis mise à tutoyer tout le monde, hein, voilà. Bon. Jérôme Baudou, tu es ingénieur, athlète aussi, et tu as décidé de créer une marque où tu te lances dans la création d'une marque à partir de produits upcyclés.
Ouais, c'est ça. Donc, oui, déjà, bonjour à tous, puis merci beaucoup de me permettre de participer à cette conférence. C'est un honneur. Et oui, je suis ingénieur, du coup, c'est mon métier. Je suis ingénieur à mon compte. Je travaille dans l'innovation pour des entreprises dans le domaine du sport. Je fais du développement. D'ailleurs, je vois le projet de Salomon qui vous sera présenté tout à l'heure, ça m'intéresse vraiment. Et à côté de ça, je suis aussi biathlète, du coup, je voulais juste vous montrer ce que je fais. Je fais du sport, j'étais sportif de haut niveau. C'est aussi j'ai eu un peu un éveil par ça, parce que, comme tu disais, Julien, on reçoit beaucoup de vêtements, des vêtements en quantité pour représenter une équipe, représenter une marque ou quoi que ce soit à chaque compétition. Et forcément, ça fait beaucoup de vêtements, il y a des transports, des choses comme ça. Et ça m'a aussi un peu éveillé aux problématiques environnementales. Donc voilà, il y a cet aspect-là aussi, c'est une des raisons pour laquelle je suis là. Et comme tu disais, j'ai aussi créé une marque de vêtements, donc je pense qu'on peut passer à la slide suivante, ça s'appelle ReworkSphere. En fait, j'ai travaillé avec une friperie qui s'appelle RetroSphere, donc c'est un nom un peu similaire, on a essayé de faire une identité commune. Une friperie qui revend des vêtements usagés vintage. Et forcément, si c'est des vêtements usagés, si c'est des vêtements de seconde main, il y en a une partie qui est plus utilisable parce qu'il y a une grosse tache, parce qu'elle est complètement abîmé, complètement éventré, ça peut pas être toujours revendu. Et en travaillant avec cette friperie, enfin qui est gérée par un ami, on a travaillé ensemble. On voyait qu'on accumulait des pièces qui étaient souvent super belles, vraiment intéressantes, souvent de très bonne qualité, mais qui pouvaient pas être vendues pour un défaut quelconque. Et c'était vraiment dommage. C'est quelque chose qu'on accumulait, on pouvait pas en faire grand chose. Et du coup, c'est là que le projet est né. Du coup, je suis parti un peu de, on va dire, cette matière première qui pouvait être incroyable. Je faisais un peu de couture. Je me suis formé un peu à la couture moi-même avant pour des projets plutôt techniques. Et du coup, j'ai vu le potentiel de cette quantité de matière première qui était incroyable. Et avec ça, j'ai commencé à essayer de faire des créations. Donc en réutilisant des vêtements, en contournant les défauts, en essayant de jouer avec ce qui était disponible, en essayant de réutiliser les motifs, les couleurs qui étaient intéressantes pour refaire des créations. Donc au début, ça a commencé plutôt avec des accessoires. Moi, je pense que la slide suivante montre. Donc j'ai que ces photos-là. Ici, c'est que des accessoires que j'ai fait, que j'ai créé à partir de vêtements du coup qui sont à la fois de seconde main et en même temps hors d'usage. Et donc c'est 100% excepté le fil que j'ai pas pu récupérer sur des vêtements, c'est 100% recyclé. Donc on a le molletonnage qui est à l'intérieur, les passepoils, les coutures, c'est entièrement recyclé. Donc j'utilise parfois plusieurs pièces, des t-shirts pour les doublures, j'essaie de rajouter un peu les étiquettes pour faire des aspects un peu finis pour pouvoir faire un produit qui est correct et qu'on puisse vendre, parce que l'idée c'est de le vendre par le biais de la friperie qui existe déjà. Donc voilà, j'ai commencé par des accessoires et voilà, ça a bien marché. Et puis on les vend par le biais de la friperie dans une section qui est dédiée aux créations, on va dire upcycling. Et comme ça a marché bien, j'ai commencé à faire aussi des habits de plus en plus, en réutilisant par exemple des suites, des choses comme ça, des combinaisons de ski. Et c'est il y a un an quasiment jour pour jour, je crois que l'événement a à nouveau lieu cette année, ce week-end. Donc j'ai participé il y a un an à un défilé de mode, un concours de mode à Lyon. Donc ça c'est une photo, du coup il y a les quatre créations que j'avais faites, donc les ensembles haut et bas ou la robe, que j'avais faites pour ce défilé. Donc à nouveau, ces créations, c'est entièrement fait à partir de pièces qui n'auraient pas pu servir. Donc c'est vraiment du déchet et c'est vraiment là que l'upcycling pour moi est intéressant. C'est des matières qui étaient beaucoup plus simples ou qui étaient vraiment utiles de réutiliser plutôt que les recycler. On pouvait ajouter vraiment beaucoup de valeur ajoutée dans ces matières-là en les réutilisant, en recréant des choses avec ça. Donc voilà, c'est une marque que j'ai créée qui est vraiment à petite échelle. On va dire que je fais peut-être une cinquantaine de pièces à l'année. Donc je travaille à mon échelle, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de faire de la récupération, de faire des créations avec très peu. C'est quelque chose que j'intègre aussi dans mon travail d'ingénieur. J'essaye de faire le maximum de développement avec le minimum, de faire des low-tech, d'essayer de penser à minimiser, à rendre les choses petites pour minimiser l'impact environnemental. Donc et c'est quelque chose qui me motive beaucoup et qui m'a amené à ces projets-là.
Merci. Et c'est donc la matière en fait provient de cette friperie qui est à Lyon aussi ?
Ouais, c'est ça. La matière, elle provient de cette friperie. À la base, c'est une friperie en ligne. Elle est basée, en fait, moi je viens du Jura, donc elle est basée dans le Jura, le stock et tout ça, c'est tout géré dans le Jura. Et plus récemment, ils ont eu une boutique à Lyon. Donc si vous voulez voir ce que c'est, ça s'appelle Rétrosphère. Et donc c'est des pièces vintage, principalement des accessoires de sport ou du sportswear. Et donc oui, c'est basé à Lyon, l'enseigne est à Lyon. Sinon, c'est basé dans le Jura, de là où je viens. Avec un ami, on bosse un peu là-dessus.
Alors, c'était mon autre question. Vous êtes combien pour développer, comment tout ça s'organise, qui coûte, qui conçoit les modèles
Ouais, alors pour la friperie, on va dire que c'est plutôt mon ami qui a vraiment lancé le truc. Donc il a principalement lancé ça seul. Donc après, je bosse un peu avec lui. Et après, pour ses créations, on va dire que je discute avec lui parce que c'est lui qui a les matières premières, qui sait un peu, qui gère un peu plus les stocks et ce qui est intéressant. Il y a beaucoup de stocks, du coup, il peut un peu me cibler, enfin, il peut me cibler les pièces qui sont intéressantes que je peux réutiliser. Donc, et puis aussi, il a un peu une vision de ce qui pourrait marcher, qui est peut-être sûrement plus fine que moi. Moi, je fais de la couture pas depuis très longtemps. Enfin, je m'intéresse pas de. Bon, j'ai commencé la couture, on va dire, d'un point de vue purement fonctionnel. Donc le point de vue esthétique, il a aussi un avis là-dessus qui m'intéresse beaucoup. Mais après, sinon, pour la création, le patronage, tout ça, je le fais entièrement seul. Donc avec, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein, il faut une machine à coudre, une paire de ciseaux, quelques épingles et c'est tout. On peut faire la plupart des choses avec une machine à coudre et deux points de couture. Et c'est ça aussi qui me plaît dans la couture. Avec une machine à coudre, j'arrive à faire des créations.
Je ne sais pas si on serait tous capables de faire ça. Sûrement vous, mais peut-être nous concernant, ouais. Je ne m'avancerai pas. Mais non, mais c'est bon. En tout cas, merci. Très intéressant, puis vraiment intéressant. Mais de voir comme le sport éveille, en fait, à cette... Ouais. Ou alors, moi, ça, j'ai été dans un club 10 ans au handball, ça n'existait pas du tout, ces questions, il y a 20 ans. Donc, c'est important de voir comme aussi l'engagement individuel, en fait, va permettre d'embarquer derrière soi aussi des structures un peu plus importantes. On va se laisser une dizaine de minutes pour vos questions, une quinzaine de minutes. Voilà, c'est l'occasion, n'hésitez pas à la fois sur... Ouais, alors allez-y. En parlant un petit peu fort, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende.
Ouais, j'ai déjà eu la question. Alors, en fait, il n'y a aucun problème légalement, il n'y a aucun problème à réutiliser une marque tant que ce n'est pas de la contrefaçon. En fait, dans toutes les créations que je fais, s'il y a une pièce qui est... Ben, on voit une doudoune là-bas Adidas... Quand on la présente, on dit pas c'est une doudoune Adidas. Ça serait de la contrefaçon. Et c'est vraiment réutiliser un vêtement. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a aucun problème légal. Et de toute façon, avec eux, je dirais que tu as une beaucoup trop petite échelle pour que ils aient à s'en soucier, je pense. Mais il n'y a aucun problème légal. Après, forcément, ça serait, je ne pourrais pas faire de la diffamation en réutilisant leur logo pour quelque chose d'autre, pour la diffamation ou quelque chose comme ça. Mais de faire ça, des pièces, même mixer plusieurs marques, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci légal. En gros. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Au début, je fais les patronages et... pas forcément une bonne idée de ce qui va ressortir, de comment, enfin, de quelle galère je vais avoir sur la fabrication et tout ça. Comment j'arrive à gérer ? Bon, on va dire que sur les accessoires, je commence à pas standardiser parce que c'est pas possible. À chaque fois, j'ai des pièces de tissu, des tissus qui sont différentes, mais je commence à avoir je dirais une gamme de construction qui est assez claire. Du coup, j'arrive à avoir un ordre d'idée sur le temps que j'y passe. Et donc voilà, ça me donne des indications sur le temps que je vais passer à faire un certain nombre et certains types de pièces. Ça dépend. Je crois que les sacs qui étaient dans la diapositive précédente, ils étaient autour de 48 euros, je crois. À peu près l'équivalent pour le bob. Et après, c'est souvent un peu plus, par exemple, la doudoune ou l'équivalent... c'est autour de 200 par là, des choses comme ça. Après, ça dépend beaucoup. En fait, ça dépend beaucoup aussi de... Et c'est là que je travaille beaucoup avec la friperie. S'il y a des pièces, on va dire, collector que j'utilise, c'est super important pour le point de vue esthétique, mode, et ça peut faire changer le prix. Si je fais des finitions, je dirais, plus fines, en réutilisant un peu des... je sais pas, des codes de la mode ou des choses comme ça, ça peut changer le prix. Donc ça varie pas mal, même d'un suite à un autre, ça peut varier pas mal selon les pièces réutilisées.
D'autres questions ?
Je me posais la question par rapport aux chutes. Du coup, il y a déjà le côté déchets, etc. Mais niveau fin du coup du processus, est-ce qu'il reste beaucoup de chutes ou est-ce que du coup il y a une optimisation que vous faites à ce niveau-là, etc. quoi.
Ouais. Alors j'imagine les chutes. Bah, après, ce que je réutilise, on peut presque déjà considérer que c'est des chutes parce que ce serait pas utilisable comme vêtement tel quel. Donc oui, forcément, il y a des chutes. Après, souvent. Non, j'ai pas l'exemple là, mais on peut retrouver souvent plusieurs vêtements, enfin un seul vêtement sur plusieurs de mes créations. Là, par exemple, il y a un sac à dos que j'ai là. Il y a un sac qu'utilise une fermeture d'un sweat, et ce sweat, je l'ai aussi réutilisé dans une autre création, peut-être un des joggings qui est porté là, je sais plus exactement. Mais en fait, les tissus les plus intéressants. Et les pièces les plus intéressantes, les plus, enfin, aux couleurs intéressantes et belles, j'essaye au maximum de les garder parce que je sais que je peux réutiliser des fois un carré de 10 par 10 et qui peut changer une pièce entièrement. Ça peut être juste couvrir une tache, couvrir un trou, et ça peut changer une pièce entièrement. Donc finalement, j'ai assez peu de chutes. Enfin, ça dépend ce qu'on considère comme chute, parce que je garde beaucoup de pièces. Et voilà, j'ai assez peu de chutes. Par contre, le problème d'un autre côté, c'est que j'ai beaucoup de stocks. J'ai un peu des piles de tissus pour fouiller, pour essayer de trouver les bonnes couleurs. Donc, on pourrait dire que jusqu'à maintenant, j'ai quasiment pas de chutes. J'ai jeté très peu de tissus, sauf des bandes toutes petites qui sont vraiment plus utilisables. Je sais pas si ça répond à ta question.
Ouais, non, c'est bon. Merci beaucoup.
Alors, il y a une question au milieu, puis une devant.
Bonjour. Est-ce que des fois vous utilisez des tissus en plus est-ce que vous achetez des tissus en plus, par exemple, si vous ne trouvez pas la bonne couleur ou...
Alors non, j'achète que le fil. C'est vraiment la seule chose qui est achetée qui est vraiment compliquée à récupérer. Donc non, j'ai jamais acheté de tissus pour faire des créations. C'est une contrainte. Des fois, c'est compliqué trouver deux couleurs qui s'assemblent pour faire une création, c'est parfois très compliqué, mais c'est aussi une contrainte que j'aime bien et qui fait que le travail est intéressant.
Merci.
Vous aviez une question devant ? Oui.
Alors, pour moi, en fait, quand je vois les vêtements que j'ai pour faire du sport, ces vêtements-là, c'est une mode, on va dire, sportswear, mais ils sont pas assez techniques pour faire du sport. Donc, j'ai pas vraiment eu l'envie de vraiment recréer pour faire du sport. Après, ce que je fais beaucoup, mais on va dire que d'un point de vue, enfin, plus personnellement, c'est modifier des vêtements où je le fais. Pour moi, je le fais. Je me suis fait des choses comme des camelback, des kawaii, des trucs comme ça. J'ai pas eu la volonté de faire ça vraiment dans le cadre de cette marque-là. Pas pour faire du sport. Après, pourquoi pas, mais c'est aussi assez différent. C'est un public vraiment différent. Le public vraiment, enfin, les créations qui sont faites pour faire du sport, elles s'adressent vraiment à un public qui est différent de celle-ci, qui s'adresse plutôt à un public intéressé par la mode, le vintage et des choses comme ça. Mais oui, en effet, c'est vrai, il y a, on va dire, des corners souvent dans des magasins qui se mettent en place avec des choses soit de la seconde main, soit du vintage, des marques qui retrouvent du stock dormant et qui le mettent dans des corners. Et moi, personnellement, je n'ai pas été contacté pour ça, mais la friperie avec laquelle je travaille a été contactée pour... donc là, c'est plutôt que de la seconde main, plutôt que de la création, pour intégrer un corner dans certains magasins. Oui, c'est même, je pense, intéressant pour les marques. Après, des fois, c'est peut-être du greenwashing ou des choses comme ça, mais elle s'y intéresse. Et après, c'est vrai qu'il doit y avoir une limite à un moment.
Juste, je peux me permettre de compléter. Je pense pas que ce soit du greenwashing, parce que de toute façon, ils seront poussés à le faire. Mais par contre, ça va pousser ces marques à créer leur filière de récupération, de réutilisation, de reproduction. Enfin, je sais pas comment on peut l'appeler exactement. Donc, je pense que ça va vraiment pousser toutes ces marques à recréer ces filières de récupération et de retransformation de ces vêtements. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, le marché est infime, mais si la part devient importante, évidemment, ils auront un marché aussi à jouer. Donc, Et je pense que c'est bien toutes ces initiatives. Ça va pousser à repenser tout ça.
Ils vont devoir s'adapter à une réalité, en fait, qui les devance presque. Enfin. Et j'avais peut-être une petite question pour toi, Julien. Il y en a peut-être d'autres, mais en attendant, sur ce label, est-ce que... Déjà, est-ce que vous êtes démarché ou est-ce que c'est vous qui proposez, qui allez démarcher les clubs, les événements? Et est-ce que il y a des freins? Est-ce que c'est plutôt quelque chose dans lequel les clubs, les fédés s'engagent vraiment pleinement? Ou est-ce que ça reste difficile? Où est-ce qu'on en est de cette...
Alors, encore une fois, on est tout jeune, on n'a que 2 ans, donc c'est une démarche quand même assez longue. La transformation est longue, de changer nos habitudes, c'est long. Tu parlais que tu jouais dans un club de hand et ces sujets-là, il y a 20 ans, n'étaient pas prégnants. Et en effet, ces sujets-là n'étaient pas présents dans les clubs de sport. Les sujets sociaux, sociétaux étaient omniprésents parce que c'est l'ADN même du sport. De s'engager sur le terrain, mais aussi de s'engager dans la vie sociale, sociétale. C'est une question qui vient. On a été surpris quand on s'est lancé. En fait, on a eu 70%, 80% des appels entrants. Savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il fait là, le rugbyman, là, qu'est-ce qu'il veut faire. C'était vraiment une interrogation. Et aujourd'hui, on démarche aussi. Hein, aujourd'hui, c'est vraiment quand est-ce qu'on va y aller, quoi. Vraiment quand est-ce qu'on va s'engager, et c'est pas quand est-ce qu'on va y aller, c'est quand est-ce qu'on va dire qu'on y est déjà presque, parce qu'en fait on fait tous quelque chose. Alors on peut parler de greenwashing ou pas, mais ça reste des petits gestes, ça reste la part du colibri, hein. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, je crois que tous nos gestes aujourd'hui font partie d'un effort collectif pour faire avancer, la réflexion, pour avancer notre démarche commune. Donc tout le monde fait un petit peu, et certains clubs se disent, mais nous, attends Julien, on fait absolument rien, on a besoin de savoir ce qu'on fait, et puis en fait
on sait pas par où commencer,
qu'est-ce que ça veut dire éco-responsabilité, ouais. Est-ce qu'on commence par mettre des panneaux solaires sur le toit ou trier dans les poubelles, et le sujet est vaste et peut être dangereux s'il n'est pas bien identifié, pas bien planifié, et partir dans de mauvaises directions. Donc les freins sont...
Je pense à la volonté politique. Est-ce que c'est quelque chose qu'il y a une volonté?
Oui, il y a une vraie volonté de s'engager.
Parce qu'ils sont obligés. Enfin,
oui, ils sont obligés, mais il y a une volonté. En fait, c'est plus de pouvoir communiquer aujourd'hui dessus. On travaille avec des clubs professionnels. On travaille avec des très grands clubs professionnels depuis plusieurs mois, et ils ne veulent pas communiquer dessus.
Avant d'être prêts à communiquer.
Avant d'être prêts à communiquer, mais en même temps, on a des clubs avec qui on a travaillé. Le CA Brive-Corrèze, par exemple, est un très bon exemple. Le CA Brive-Corrèze, pardon. Un club de rugby top 14 qui s'est engagé avec nous quand les auditeurs ont été là-bas, m'ont appelé, dit, Julien, ils sont loin du truc. Et en même temps, ils ont communiqué sur le fait qu'ils s'étaient engagés avec nous. Tu parlais des réseaux sociaux, c'est la seule communication l'année dernière où il y a eu zéro retour négatif. Quand on voit le je sais pas si les mots pour décrire ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même quelque chose, un signe fort, un indicateur fort de cet engagement. Quand on a signé avec l'Olympique Lyonnais, ça a été que des retours positifs en disant voilà, le club s'engage dans une démarche. Nous, on défend pas que nos clubs. Les ligues, les fédérations, les événements sont les plus verts du monde. C'est des événements qui déplacent du monde, qui consomment, mais par contre qui rentrent dans une démarche de progrès, qui essayent de réduire au maximum leur impact carbone, leur impact environnemental, et en ayant conscience des limites aussi qu'on a. L'humain va continuer à vivre, mais il va falloir qu'il vive différemment, mais on peut tout changer d'un seul coup. Ça peut être difficile, il faut du changement, c'est long. Et encore une fois, c'est long, ce changement.
Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé. C'était vraiment passionnant. Ouais, eh bien, on a 5 minutes de pause.